Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au balado « Rencontrer les manges-gardiens ». Le gaspillage alimentaire est un lourd fardeau, autant économique, social et écologique. L'ONU estime que le tiers de la nourriture produite est gaspillée à travers le monde. Des aliments sont discrédités tout au long de la chaîne agroalimentaire pour différentes raisons. Une forme moins intéressante, une date dépassée ou de légères imperfections. On nous demande souvent, mais en tant que consommateur, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous espérons que ce podcast répondra à cette question et vous donnera envie de vous impliquer dans la lutte au gaspillage alimentaire comme le font déjà beaucoup d'autres manges-gardiens, c'est-à-dire des gens qui respectent assez la nourriture pour tenter de la sauver des poubelles.
Aujourd'hui, je rencontre Thibaut du marché Second Life qui a choisi de s'attaquer au problème des aliments de seconde catégorie, mieux connus sous le nom d'aliments moches, qui, vous verrez, ne sont pas si moches que ça. Bonne écoute!
Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Thibaut. Bonjour Thibaut.
Bonjour Gabrielle.
Donc, vous travaillez au marché Second Life, qui est un super projet qui vise à réduire le gaspillage alimentaire dans toute la chaîne agroalimentaire. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce que c'est Second Life?
Oui, avec plaisir. D'abord, merci pour l'invitation. Je vous suis depuis le début et je sais que vous êtes très présent dans la mission de lutte au gaspillage, donc félicitations pour ça.
Merci.
Nous, le marché Second Life, dans le fond, notre travail, c'est de récupérer les aliments qui sont mis de côté parce qu'ils ont été jugés imparfaits ou parce qu'ils se retrouvent en surplus chez nos fournisseurs. On récupère ces produits-là, puis on les vend sur notre site internet à nos clients directement. Donc, c'est uniquement pour les particuliers. Et on livre les commandes dans un réseau de points de chute et on fait aussi de la livraison à domicile. Mmh. Et les produits qu'on récupère, on les récupère soit auprès des fermiers directement, proche de la région de Montréal, mais on livre aussi à Québec, on pourra en reparler.
Okay, oui.
Et puis aussi, on travaille avec des grossistes alimentaires qui, eux, ont aussi des produits en surplus ou imparfaits. Et on travaille enfin avec des transformateurs alimentaires. Donc, on essaye d'offrir à nos clients une offre d'épicerie qui est quand même diversifiée avec des fruits, des légumes, des produits d'épicerie sec, épicerie frais, dans le but de réduire le gaspillage et de faire économiser un petit peu nos clients sur leur épicerie. On donne tous les produits que nous, on a en surplus à la fin de notre semaine et aussi tous les produits qu'on a triés qui ne rentrent pas dans nos critères.
OK. Vous les donnez à des banques alimentaires
Ouais. C'est pas beaucoup, hein. C'est quelques centaines de dollars où on donne en fait tous les produits qu'on a triés et qui ne rentrent pas dans nos critères de qualité et, et tous les produits que nous, on aurait en surplus. Et ça, on les donne à des organismes de bienfaisance.
OK. Donc, j'imagine que l'idée de ce projet-là est partie du constat qu'il y avait beaucoup de gaspillage ou comment c'est parti en fait ce projet-là?
Oui, en fait, le constat était plutôt de pas tant qu'il y avait beaucoup de gaspillage parce qu'à l'époque, donc c'était en 2015, il y avait très, très peu d'études qui avaient été faites par le fédéral, le provincial ou d'autres organismes. Donc, il y avait très peu de données sur quel était le gaspillage au Québec.
Il y en a encore très peu, d'ailleurs.
Oui, exact.
Il n'y a pas grand-chose encore.
On n'a pas suffisamment, absolument.
C'est ça.
Mais en fait, on est parti du constat qu'il y avait d'autres solutions qui existaient dans d'autres pays dans le monde, aux États-Unis, en Europe aussi. Et on s'est dit, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de gaspillage au Québec, genre c'est impossible. Donc en fait, on a plutôt essayé de trouver une solution pour le gaspillage que nous, on avait identifié, mais qu'on n'avait pas lu dans un rapport. Et la façon dont on l'a identifié, c'est en allant rencontrer des fermiers, puis des revendeurs de fruits et légumes, surtout au marché Jean Talon. C'était comme la première recherche qu'on avait faite. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fermiers qui se retrouvaient avec des surplus ou avec des produits qui étaient un petit peu trop difformes et qui ne trouvaient pas preneur. Et là, on s'est dit, ça pourrait être intéressant de proposer ces produits-là aux particuliers directement.
OK, je comprends. Donc, vous avez constaté qu'il y avait du gaspillage au niveau des producteurs en discutant avec eux. À ce moment-là, qu'est-ce que vous avez constaté? T'sais, qu'est-ce qui se gaspille chez les producteurs, chez les grossistes? Vous avez parlé de ça, vous avez parlé des transformateurs aussi. Quel genre de produits sont gaspillés puis ne peuvent pas être vendus?
Ben, on retrouve, on va dire, deux types de produits. Donc, il y a un produit qui a vraiment un défaut physique. Donc, il est trop petit, trop gros, trop difforme, pas la bonne couleur. C'est un produit qui est parfait à l'intérieur, mais qui a un vrai défaut physique. Et ce produit, souvent, il va se retrouver mis de côté selon quelle est la clientèle du producteur ou du grossiste.
Oui.
Par exemple, si je suis un producteur d'asperges et que je vends mes produits strictement chez Rachel Berry ou chez IGA, si mes asperges sont trop petites, je vais être incapable de faire des bunches de une livre.
Oui.
Donc là, je vais me retrouver avec un produit sur les bras, parfois 500, 900, plus de 1000 livres, qui est quand même un faible pourcentage comparé à toute ma production, mais qui peut nourrir au moins 5, voire 1000 familles. Et ce producteur-là, lui, il n'a pas le client pour aller vendre son produit imparfait. Donc, nous, on rentre à ce moment-là.
Okay.
Ensuite, on récupère des produits en surplus. Donc, ça, c'est un produit qui est parfait. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on peut trouver en épicerie. La grosse différence, c'est qu'il a un peu été victime des pratiques de gestion d'inventaire dans l'industrie.
Okay.
C'est-à-dire que tout le monde, en fait, préfère surstocker que sous-stocker, dans le sens
oui.
où ils préfèrent tous avoir plus de produits que pas assez pour leurs clients.
Mm-hmm.
Comme un restaurant, d'ailleurs, qui préfère souvent avoir plus de produits pour pouvoir servir tout le monde et pas
oui.
perdre des ventes que l'inverse.
Oui.
Et donc, le grossiste, souvent, lui, il est capable de prédire et de dire « Ah, ok, là, j'ai peut-être un peu trop acheté. Je ne vais pas réussir à tout vendre avant que le produit commence à perdre en qualité.
Mm-hmm. »
Donc, nous, pour nous, ça, on interprète ça comme un surplus parce que c'est
okay.
un produit qui a une très forte probabilité de se retrouver mis de côté dans une semaine ou quelques jours. On récupère ce produit-là. Donc, ça, c'est vraiment pour les parties fruits et légumes. Pour les produits transformés, donc ça c'est une initiative qu'on a commencé il y a quelques mois, c'est un projet assez récent. On travaille avec des transformateurs directement, donc qui sont situés au Québec pour la totalité, en fait 100% de nos fournisseurs sont au Québec. Et eux, ils rencontrent des problématiques plus liées à la production, en fait à l'industrialisation, on va dire, de leurs procédés. Donc par exemple, c'est un bug dans une machine qui fait que les pâtes, elles sont difformes. C'est des problèmes d'emballage, c'est pas les bonnes couleurs, c'est des problèmes d'étiquetage. Parfois, c'est aussi des problèmes de recettes. On a vendu des vinaigrettes dans lesquelles il y avait un petit peu trop d'oignons. Ça fait que le produit, en fait, n'est pas similaire en tout point à celui qu'on peut trouver à l'épicerie. Donc, le fournisseur, le transformateur, il se retrouve avec une batch de vinaigrette qui est très bonne, qui est juste un peu plus oignonnée que la vinaigrette régulière, mais il est incapable de le vendre. Donc,
parce qu'elle ne goûte pas comme leurs produits habituels.
Exactement, ouais.
Okay.
Et que le client, il s'attend à une régularité dans ses achats, dans le goût de la vinaigrette, dans le packaging de la vinaigrette. Et nous, on est un peu le plan B de tout ce qui peut se passer en arrière, côté entrepôt, côté usine, production.
Okay. Parce que ces aliments-là, qui sont, disons, imparfaits à cause de l'étiquetage, emballage, erreur dans la recette, ben, erreur minime, on s'entend, là, s'il y a des erreurs
ouais.
qui font en sorte que c'est vraiment immangeable, ben, on comprend. Mais
ouais,
ces aliments-là pourraient pas être redonnés, ils ne sont pas redonnés, par exemple, à moisson.
Ils pourraient être redonnés. Nous, de l'interprétation qu'on fait de comment ça fonctionne au niveau des dons, c'est que tous les producteurs puis tous les transformateurs n'ont pas le désir forcément de donner. Parce que ça prend quand même une logistique, c'est une perte sèche aussi parce que c'est vraiment un produit pour lequel le fournisseur, le transformateur ne va pas obtenir d'argent. Donc malheureusement, ce n'est pas dans tous les cas que ces produits sont donnés. Et nous, la façon dont on veut collaborer avec nos producteurs puis nos fournisseurs, c'est on ne veut pas prendre des produits qui seraient destinés à des banques alimentaires.
Non.
Donc, c'est-à-dire que si on a un producteur qui nous appelle en nous disant, puis c'est déjà arrivé, qui nous appelle, qui nous dit, ben, moi, je donnais mes produits à la moisson de ma région, je serais prêt à vous les vendre pour faire du revenu dessus. Ben, nous, on dit qu'on n'est pas intéressé parce que le but, ce n'est pas du tout d'aller retirer des denrées, des moissons qui en ont vraiment besoin.
Oui,
donc, c'est ça.
Ouais, vous allez chercher les produits qui auraient été gaspillés de toute façon, qui ne peuvent pas être donnés pour X raisons ou
qui ne peuvent pas ou dont le producteur, le fournisseur ne veut pas donner pour X, Y raisons. À chaque semaine, on rencontre des fournisseurs puis on se rend compte à quel point les pertes peuvent être pharaoniques. C'est gigantesque.
Oui.
Dans le fruit et légumes, on en parle énormément parce que ça touche tout le monde, mais dans le transformé, on parle aussi de beaucoup de quantités de produits qui sont parfaits pour la consommation, mais qui sont mis de côté.
OK, donc quand vous parlez de transformer, c'est que vous vendez pas juste, par exemple, des fruits et légumes, parce qu'on sait que dans l'industrie agroalimentaire, les fruits et légumes, il y a un calibrage qui se fait, donc ils doivent respecter une certaine taille, une certaine couleur. À cause de ces raisons-là, il y a énormément de fruits et légumes qui sont discrédités. puis qui sont mis de côté, qui au mieux vont à la transformation, donc qui sont transformés en soupe, en plats préparés, etc., mais qui au pire sont jetés. Donc, vous venez récupérer ces aliments-là, mais vous récupérez aussi donc des aliments qui viennent de la transformation, qui ont juste été préparés en trop grosse quantité, puis que les épiciers ne veulent pas nécessairement recevoir parce qu'ils préparent ça sert à ça des grossistes, c'est de préparer les commandes que les épiciers veulent, puis ils en ont en surplus.
Okay, oui, exact. Puis pour les produits d'épicerie, on travaille en direct avec les transformateurs. Et eux, bah, ils veulent protéger leur marque aussi. Donc, ils ne veulent pas proposer un produit qui est perçu peut-être comme de moins bonne qualité parce que la pâte, elle est difforme, alors qu'ils ont investi depuis 10 ans dans le brand du produit numéro 1. Fait que nous, on arrive à ce moment-là pour proposer un produit en marque Second Life, donc de la marque Fièrement Différent, qui est la marque qu'on a développée pour remettre en commercialisation ces produits-là.
OK, donc vous n'utilisez pas la marque du produit, non, vous utilisez toujours la vôtre pour pas ternir l'image de la marque de base. Ah, OK, c'est une bonne idée.
Ben, en fait, ça a été une nécessité parce qu'il y, y en a beaucoup qui voulaient protéger leur marque, puis on peut le comprendre, ils ont passé une décennie à la construire.
Oui.
Fait que nous, on fait ça sous notre marque. Il y en a d'autres qui, au contraire, sont vraiment très contents de faire la publicité, on peut dire, de collaborer avec nous pour sauver leurs invendus. Et auquel cas, eux, ils laissent leur marque. Puis nous, on est très contents. On met un petit collant dessus pour dire que c'est un produit sauvé.
Je comprends. Ça montre qu'ils se préoccupent du gaspillage alimentaire. Fait qu'il y a quelque part, pour certaines compagnies qui, disons, sont peut-être plus vertes ou sont plus éco-responsables, peut-être que de partager leurs ressources avec vous, ben, ça peut les faire super bien paraître aussi.
Oui, absolument. Ouais,
OK. Ben, c'est super intéressant. Comment ça se passe, les paniers, tout ça? Les gens commandent de votre site Internet, les gens peuvent les recevoir. De ce que je comprends, vous livrez à Québec aussi, c'est ça?
Oui, exact. Dans le fond, nos clients sont donc créent un compte sur notre site Internet et ils souscrivent à un abonnement qui va leur proposer un panier à la semaine ou aux deux semaines. Et ce panier, on va le préparer en fonction des intérêts du client. C'est-à-dire que le client, au moment où il va créer son compte, il va pouvoir nous dire si lui, il préfère plutôt du bio, plutôt du local, plutôt du bio et du local, ou plutôt du conventionnel, puis des produits importés internationaux. Et nous, on va lui préparer un panier de base en fonction de ces critères-là, dans le but de minimiser sa job au moment où il va faire l'épicerie, en fait. On veut comme être au plus proche de ce que le client attend de son épicerie. Puis ensuite, le client, quand on a préparé ce panier de base dans son compte, il a quelques jours pour aller modifier le contenu. Fait que tout est personnalisable, il peut tout supprimer, rajouter des produits, de l'épicerie. C'est ça, genre, c'est vraiment personnalisable à 100%.
Ça permet d'éviter le gaspillage parce qu'il y a des gens à la maison qui vont recevoir des produits qui ne sauront pas quoi faire.
Ouais, exactement.
Exactement.
Puis en plus, ça facilite aussi, si tu es un gros mangeur de pommes, tu peux comme acheter plus de pommes plutôt que de recevoir une quantité fixe à chaque semaine.
Oui, je comprends.
Donc, tous les paniers sont personnalisables. Puis ensuite, on les livre généralement plusieurs fois par semaine dans chaque point de chute. Donc, on a à peu près 120 points de chute au total. Et on fait de la livraison à domicile, mais seulement dans le Grand Montréal. Et effectivement, on a ouvert la ville de Québec en septembre dernier. Oh. Fait que là, on est rendu à une quinzaine de points de chute. Il y a plusieurs centaines de clients qui sont membres du marché à Québec. Et les clients peuvent aller récupérer leur panier en point de chute. C'est des cafés, c'est des épiceries, parfois des universités, des gyms. Il y a toutes les boîtes. Le client identifie sa boîte avec son nom et récupère le contenu, laisse le bac sur place. Et nous, le bac, on va le réutiliser En fait, on va le récupérer puis le réutiliser pour les commandes suivantes.
Un peu comme les paniers bio. On va chercher sa commande. Puis,
exactement.
C'est déjà tout prêt. On n'a pas besoin de se casser la tête d'aller faire l'épicerie. C'est comme faire l'épicerie en ligne, mais ça a l'avantage qu'on récupère et on sauve des produits du gaspillage.
Okay. Puis, c'est l'avantage aussi supplémentaire, c'est que tous les fermiers avec qui on travaille, définitivement, on les aide à limiter leurs pertes dans leur champ puis à la ferme. J'ai l'exemple d'une ferme avec qui on travaille. L'année dernière, on a sauvé quasiment 20% de sa récolte qui était jugée trop difforme pour ses clients. Donc, c'était des courges. Et nous, on a dit, récoltez-les. Puis, nous, on va aller vendre ces courges. Il n'y a aucun problème. On est vraiment là pour aider aussi nos fermiers. C'est sûr qu'à date, ça fonctionne parce qu'ils sont contents.
Mais est-ce Est-ce qu'il faut être membre du marché Secret Life? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut l'essayer une fois, voir si on aime ça, puis après ça, continuer ou arrêter? Comment ça
Oui, je
fonctionne?
ne l'ai pas dit, mais effectivement, on peut annuler en tout temps. Le client peut aussi repousser des commandes s'il part en vacances ou si ça ne l'intéresse pas pendant un certain temps. Donc, il y a quand même de la flexibilité dans ce sens-là. Tu es un client qui voudrait essayer une fois, ben, il s'inscrirait, puis il essayerait son panier, puis ensuite, il pourrait skipper ou annuler entièrement son abonnement. Fait qu'il n'y a pas d'engagement, tu sais, genre, où il faut payer pendant 6 mois, enfin 6 mois en avance, les commandes, comme c'est le cas pour les paniers fermiers. Nous, c'est un peu plus flexible sur ce côté-là.
Puis les grosseurs des paniers, j'imagine que c'est adapté selon pour le
C'est
client.
adapté. Ouais, c'est adapté selon un nombre de personnes. Donc, on a 2, 4 ou 6 personnes. Puis, comme le client peut personnaliser, ben après, il peut l'ajuster aussi à ses besoins en fonction de la semaine. S'il prévoit faire des soupes avec des amis pendant la fin de semaine, ben, tu sais, il va peut-être en commander plus. C'est flexible aussi dans ce sens-là.
Oh, ouais, c'est chouette. C'est une belle action parce que souvent on se fait demander, on sait qu'il y a du gaspillage qui se fait dans tout le long de la chaîne agroalimentaire, comme vous dites, de passant par les producteurs, les transformateurs, les grossistes, et tout ce monde-là gaspille. Puis à quelque part, même si les gens veulent bien acheter des aliments moches à l'épicerie, bien souvent ça ne se rend même pas à l'épicerie. On se fait demander, OK, mais si ça ne se rend même pas, comment je peux aider à réduire le gaspillage alimentaire si ça ne se rend même pas à moi? Bien, votre plateforme est une offre super pour ces gens-là qui se disent, bien, je veux aider, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment aller les chercher, les légumes moches qui sont perdus en haut de la chaîne agroalimentaire, bien, avec le marché Secret Life. En fait, c'est ça que vous faites.
C'est notre job.
C'est ça, vous allez chercher ces aliments-là, puis vous les rendez disponibles aux gens, là.
Ouais, puis c'est pas une petite job là. Tu sais, maintenant, tout le monde parle des sujets du gaspillage. Fait que c'est quand même ancré dans les mentalités des gens. Mais tu sais, quand on a démarré ça en 2015, on faisait des démarchages de fournisseurs, surtout en Montérégie, en Estrie. Les gens, ils nous prenaient pour des extraterrestres là, parce que tu sais, genre, pourquoi tu serais intéressé à mes carottes moches, puis genre mes piments qui sont trop petits. Tu sais, comme ils comprenaient pas quel était le but de tout ça. Maintenant, quand on approche un fournisseur, bah, tu sais, déjà, on est un petit peu connus, fait que souvent, ils ont un voisin ou un ami qui a travaillé avec nous. Et puis, le sujet du gaspillage, tu sais, toutes les nouvelles générations de fermiers, de ceux qui reprennent de leurs parents ou ceux qui s'installent fraîchement, ils ont tous ce sujet à cœur, puis, tu sais, ils veulent tous faire de quoi, là?
Oui, ils sont de plus en plus sensibilisés. Donc,
C'est
est-ce que vous
sûr.
avez moins de clients à cause de ça? Parce que les gens sont de plus en plus sensibilisés puis réussissent à passer leurs aliments malgré tout? Ou...
Ah, tu veux dire les fournisseurs? Est-ce
Les
qu'on a moins de
fournisseurs, oui,
fournisseurs?
c'est ça.
Ben
Oui,
bah non, écoute,
je me suis mépris.
les quantités, elles sont tellement importantes que y en a, tu sais, y en a là. Puis nous, on fait des démarchages, tu sais, tous les étés, on recommence nos démarchages. Fait que ça, c'est pas un enjeu. Puis le jour où ce le sera, bah, tu sais, tant mieux, on aura rempli notre mission. Puis peut-être qu'on s'arrêtera là.
Puis vous dites à tous les étés, on recommence le démarchage. Est-ce que c'est parce que les paniers fonctionnent juste l'été ou c'est vraiment à l'année?
Ça fonctionne toute l'année, mais les fermiers locaux, bah, tu sais, obligés, là, on commence à leur reparler, disons, au printemps, genre mois d'avril, mois de mai, pour prévoir la saison qui s'en vient. Parce qu'en hiver, on travaille avec quelques-uns, donc quelques producteurs de serre. Il y a de plus en plus de produits qui poussent sous les serres. Fait que, tu sais, on travaille un petit peu avec eux, mais le gros de la saison locale, elle se fait en été. Et le reste du temps, en hiver, on travaille beaucoup avec les grossistes qui, eux, ont énormément de produits à
De
écouler aussi.
surplus, oui.
Ouais, donc en fait, on arrive à avoir un approvisionnement assez stable sur toute l'année, et c'est pour ça qu'on livre 52 semaines par an.
Fait que quand vous parlez de local, c'est vraiment des produits qui sont. Parce que là, vous êtes une compagnie de Montréal, donc c'est des produits qui viennent dans les alentours de Montréal. Puis, donc, ça, c'est plus l'été qui sont disponibles, évidemment, parce que, bien, avec nos
Pour
hivers
la
québécois, on
saison,
ne peut pas
ouais.
faire pousser des légumes à l'année, malheureusement. Puis, le reste, en fait, de l'année, c'est des légumes qui viennent de n'importe où dans le monde.
Bah, il y a encore des produits locaux quand même là. T'sais, jusqu'à la fin de l'hiver, il y a des produits de stockage qui sont du Québec. Puis il y a les produits de serre aussi. Mais t'sais, la diversité, elle est vraiment super intéressante au début de l'été. T'sais, quand il y a des laitues, des fraises, des asperges, t'sais, là, ça devient vraiment le fun. Mais on a quand même des produits locaux tout au long de l'année. Mais on sauve aussi beaucoup de produits qui ont été importés. Et qui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces produits-là, parce que nous, on se posait la question de l'impact environnemental de notre approvisionnement, et ces produits-là, en fait, ils n'ont pas été importés pour nous, tu sais, dans le sens où on n'a pas, genre, passé une commande puis dit, OK, genre, je veux, je sais pas, 15 000 oranges par semaine. Tu sais, nous, c'est vraiment en fait, tous les jeudis, tous les vendredis, on passe les appels à tous nos fournisseurs.
Oui.
Puis on fait une liste de tout ce qu'ils ont à sauver pour la semaine d'après. Tout ce qui va tomber en surplus, tout ce qui sort du champ, qui écroche. Ouais, même pour les fermiers, tu sais.
Okay.
Ils savent ce qui écroche, ils savent que tel champ, il a eu un peu chaud, fait que la laitue, elle va être un peu jaune. Tu sais, genre, on planifie tout ça. Puis nous, ensuite, on choisit ce qu'on va vendre à nos clients. La plupart du temps, on prend tout parce qu'il y a quand même beaucoup de diversité.
Mm-hmm.
Ensuite, on commence à récupérer le stock en fin de semaine. Puis les paniers sont faits le jour même. Donc, ça nous permet d'avoir un produit frais. Tu sais, toutes les semaines, ça tourne en fonction de ce que nos fermiers ont. Par exemple, cette semaine, on a des asperges qu'on a récupérées justement d'un fournisseur qui travaille avec des grandes épiceries, des grandes chaînes, puis qui a des asperges trop petites. Ben, lui, on lui a récupéré, je pense, plus de 500 livres.
Okay.
Mais la semaine dernière, il n'avait pas de problème de stock, fait que on n'en a pas vendu. Okay. On s'adapte vraiment en fonction de ce que les fermiers ont sur les bras.
Mm-hmm.
Et c'est sûr que c'est en été qu'on a le plus de fun parce qu'il y a beaucoup plus de produits.
Oui, c'est ça, il y a plus de produits. Mais dans le fond, l'hiver, vous ne faites pas nécessairement affaire avec des producteurs internationaux. Vous récupérez les invendus que les producteurs internationaux ont envoyés à transformateurs, grossistes, épiciers.
Oui, c'est exactement ça.
Je comprends.
Okay. Sachant que dans les fruits et légumes, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a des produits qui ont toujours eu une avenue de sauvetage. Par exemple, tous les fruits, à part quelques-uns qu'on ne peut pas juicer, mais tous les fruits, on peut en faire des jus avec.
Oui.
C'est que les compagnies de jus, depuis toujours, elles essayent de récupérer ces produits-là pour la plupart.
Oui.
Il y en a qui ne s'intéressent pas du tout, puis c'est pour ça qu'il y a du gaspillage.
Oui.
Puis dans le légume, c'est plus compliqué, genre faire une soupe de chou-fleur. Enfin, il y a des choses qui sont plus difficiles à faire. Et nous, ça nous permet de tout récupérer, en fait.
Okay.
On s'en fiche que le produit, il soit juiçable ou non. Il arrive, il est frais. Puis genre, si on a un bon prix qu'on peut ensuite proposer à nos clients, on va y aller pour sûr.
Mais c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que je me disais, ces produits-là, disons, de seconde catégorie, pourquoi ne sont pas juste envoyés à la transformation puis ils sont transformés, comme tu dis, en soupe, en jus. C'est vrai qu'il y a des aliments qui, comme justement tu dis, le chou-fleur, c'est rare qu'on va trouver ça dans un produit déjà préparé, déjà transformé. On dirait que je ne vois même pas dans quoi qu'on pourrait mettre ça.
Ça peut exister, mais c'est comme...
C'est plus rare.
C'est ponctuel, c'est plus rare.
Il y a des pommes, disons que c'est facile. On va faire de la compote, on va faire du jus, on va faire...
Mais parfois, on peut tomber dans des affaires où, la pomme, elle est trop petite pour la machine de jus. Ça arrive aussi. Ou elle est trop grosse pour la machine. Il y a quand même parfois des cas particuliers qui font qu'il y a vraiment des produits qui sont mis de côté alors qu'on pourrait les transformer.
Okay.
Ce qu'on a appris, c'est qu'il n'y a pas de règle définie noir sur blanc. C'est vraiment du cas par cas. Il y a des fermiers qui vont avoir 10 clients différents, c'est qu'ils vont être capables toujours d'écouler leurs produits, puis ils n'ont aucune perte.
Mm-hmm.
Et c'est super pour eux. Et d'autres qui n'ont pas eu forcément la chance de trouver ces clients-là et qui se retrouvent avec du stock sur les bras. Il n'y a quand même pas de vérité générale.
Non, c'est ça, c'est vraiment du cas par cas, puis ça dépend des liens de chaque fermier. Ok, je comprends. C'est vraiment intéressant. Puis est-ce que vous savez, en termes de quantité, qu'est-ce que vous sauvez par année, par mois? Est-ce
par,
que vous avez
par
des
année,
chiffres?
Oui, par année, c'est à peu près 300 tonnes.
Oh wow! Ok.
Oui.
Okay. Et bien, sachant que c'est 11 millions de tonnes au Canada, c'est déjà ça.
Exact.
C'est
une petite goutte dans l'océan, mais c'est exactement, c'est toujours ça de sauver. Puis au vu du volume que ça représente dans notre entrepôt, c'est quand même super encourageant. Mm-hmm. Donc c'est à peu près ça, à peu près 300 tonnes.
Ok, je comprends. Mais c'est quand même des quantités impressionnantes que vous sauvez, c'est extraordinaire. Bravo!
Ouais, merci.
Belle initiative, c'est vraiment génial. Donc, si on veut s'inscrire au panier, ça fonctionne comment? On va sur votre site qui est?
Oui, notre site, c'est second-life.ca. C'est ça, le client peut... Vous pouvez vous créer un compte là, sur le site, puis suivre le chemin d'inscription. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à notre service client.
Génial. Donc, si les gens veulent s'inscrire au panier, passent par votre site Internet, puis réussissent à sauver plein d'aliments qui autrement auraient été mis à la poubelle parce qu'ils ne peuvent pas être donnés. Donc, c'est super. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi, Thibault, aujourd'hui.
Avec plaisir.
Puis, je te souhaite une belle journée. Merci encore beaucoup.
Merci à toi et merci pour l'invitation.
Bonne journée. Bye-bye.
Bye.
La réalisation de ce balado est possible grâce au financement de la Ville de Québec dans le cadre du projet Mange Gardien et chapeauté par les Amis de la Terre de Québec.